Hey, if I could have everyone's attention. We're about to start. Thank you all for coming. Okay, before I start, I guess just a couple of quick housekeeping notes. You'll see that there are two microphones in the audience. Those are for questions at the end of Madame Magloire's presentation. So, if anyone does have questions, please make sure to use the microphones because we are recording this session. So, just for sound quality. And then the other note would be, since we're a small group to start, feel free to come up close. We can make it nice and intimate if you'd like. Okay, so thank you. Welcome to Black Histories, Black Futures. It's our pleasure to have you all here today. I'm not going to go into too much of a discussion of the conference and what it's been for us so far. I just wanted to start with a few words of thanks. So first, I'd just like to acknowledge that we are on occupied Indigenous territory today and express my gratitude for the privilege of being able to host this conference here today. Second, I would like to ask you all to join me in thanking our organizing committee and my two fellow organizers, Adama Kaba and Vincia Herbert. And I'd also like to thank the many people who have supported us in putting this conference together. So that includes the staff at the Social Equity and Diversity Education Office, the many members of the organizing committee, our many sponsors and contributors. And I think I will leave it at that. Thank you all for coming, and I'm going to pass it along to Adama.
Bonjour. Je vais juste, je sais pas, j'imagine que tout le monde parlait anglais déjà, mais j'aimerais juste remercier tout le monde d'être là. C'est difficile avec le temps qui se fait dehors, mais on sait que ça va aller pendant la journée. Donc, on aimerait juste commencer par vous souhaiter la bienvenue à Histoire Noire, Espoir Noir. Et aussi reconnaître le fait que aujourd'hui on est sur un territoire autochtone et c'est important de reconnaître ça. Donc aujourd'hui on a la capacité, la possibilité de faire cette conférence sur ce territoire-là. L'autre chose c'était de remercier aussi toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à cette conférence, que ce soit les membres de l'équipe du bureau d'éducation en équité sociale et diversité, que ce soit les bénévoles, les commandites, toutes les personnes qui ont contribué. Donc merci beaucoup et donc on vous souhaite la bienvenue et puis une belle journée. Merci.
Hello everyone, I think it's appropriate that I get to say a couple things. Just kidding. I just wanted to be the one to introduce our first speaker who's going to be giving a few opening remarks today. So we have Professor Adele Blackett, and she is a William Dawson scholar with expertise in labor law, trade law, and international development, a former official of the International Labor Organization in Geneva, Switzerland. Professor Blackett has also been a visiting academic at the African Development Bank in Abidjan, Cote d'Ivoire. She holds a doctorate in law from Columbia University, where she taught as an associate in law for 2 years. She's a research coordinator for the Inter-University Research Center on Globalization and Work, the convener of the Labor Law and Development Research Network, and the recent recipient of a Canadian Foundation for Innovation Award to construct a Labor Law and Development Research Laboratory. Professor Blackett's current community service includes an advisory role to the ILO on standard setting for decent work for domestic workers and membership in the Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec. Ongoing research projects include rethinking the relationship between trade regulation and labor law from a distributive justice perspective, examining the role of international persuasion in labor law reform in West Africa, and identifying regulatory vehicles to promote the citizenship at work of domestic workers. She is a recipient of the 2010-2011 Bor-Alaskan National Fellowship in Human Rights Research. So it's my great pleasure to present Professor Blackett. Thank
you. Well, thank you very much for the invitation to say a few short words, and I'll keep my comments brief because I'm very much looking forward to the next speaker. But let me first express, I just can't start the day without expressing jubilation for the black history that's currently in the making. Of course, our brothers and sisters in Egypt, right, North African people who have collectively resisted and in the process moved mountains. And, of course, their remarkable act is literally in keeping with the act of the people of Tunisia. And as many of you know, Tunisia was also known as Ifriqiya, which means Africa. Right? And I think these acts are emblematic of a tradition of resistance, which really is the human tradition, but which, as people of the African diaspora, we also claim, right? And when we think of Black History Month, we often think about the history of slavery, we think of the history of colonialism, and we think of resistance to those. That resistance is ongoing, and much of Black History Month is to remember and to look forward to constant change, constant movement, constant insistence upon equality. Black history is in the making. But let's come back to McGill, come back to our snowy circumstance here. And I'd like to move a little more as well to the personal. When I first told the late Dr. Leo Bertley, a prominent Montreal Garveyite, Pan-Africanist, professor at Vanier College and Concordia University and editor-in-chief of the African-Canadian newspaper, that I'd been admitted to McGill Law School as a student, he was elated. But he also took pains to remind me of some of McGill's history, including a letter that he had read from admissions at McGill to a Caribbean gentleman in the pre-World War II period, a letter that rejected him because he was black. I never saw that letter, but of course I knew about the similar history faced by many members of the Jewish community here at McGill as well. So I stand here now as a faculty member at McGill, able to say that so much has changed. Right? So much has changed, and we need to remember that. And it's changed in large measure because of the struggles, because of the resistances of our own community and communities who care about equality. So at Black History Month, we must pay tribute to those who came, integrated our schools, and made spaces for all of us. It's sobering to note, however, that our communities remain underrepresented. It speaks volumes that two decades of human rights institutions in Quebec and Canada, educational employment equity, are still goals rather than realities. Academia remains a lonely place for many black students and the few black professors who are here. The fact that we are now tackling the pernicious issue of racial profiling, not only by the police, but more generally by actors in public spaces, as well as by elementary and high school establishments and by social service institutions, that too speaks volumes. As a member of the Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, I commend the current president of that commission for his courage and his vision in tackling this issue in a broad fashion. But I encourage members of our community in particular to remain engaged and vigilant. The order of the day is equity and diversity, inclusion and community engagement. But how these terms are interpreted and operationalized will determine whether they help us to continue to create small, black, strong black communities. So I applaud the SEED office for this initiative and for its vision over the past 5 years in organizing this event and for consistently doing so with and for community. I encourage our community to help make SEED and other spaces at McGill locations for community empowerment and for substantive equality. Black history compels us to claim nothing less. It is therefore also a privilege for me to have the opportunity to introduce a member of the Commission des droits de la personne du Québec, Madame Joanne Magloire, qui travaille en tant que professionnelle à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse à la Direction de la recherche, de l'éducation, coopération et des communications. Une direction qui produit, je dois dire, évidemment je suis partisan, mais en tant que membre, des rapports d'une énorme richesse, d'une réelle qualité qui mérite une grande diffusion et une réelle lecture. Madame Magloire travaille donc sur la question du profilage racial, dont elle va nous en parler aujourd'hui, mais elle travaille aussi sur les questions d'inclusion scolaire, d'accommodement raisonnable, de racisme et d'homophobie. Elle est également co-auteure donc du rapport de consultation sur le profilage racial qui sortira très prochainement, ce printemps, et donc je vous invite à l'entendre et à lui poser les vraies questions qui entourent cette enquête fort importante. Merci.
One day I will do my presentation in English. I'm working on it, but now I will do it in French. Sorry. C'est avec plaisir que j'ai accepté l'invitation qui m'a été faite de m'adresser à vous au nom de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse en ouverture de cette journée dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Je le fais en toute modestie, étant consciente des attentes élevées à l'égard de notre commission, mais également fière des réalisations de notre organisme en ce domaine. Au cours des dernières années, la Commission a été confrontée à la réalité du profilage racial de diverses façons, par le biais de plusieurs plaintes de discrimination, souvent portées par le Centre de recherche Action sur les relations raciales, le CRAR. Nous avons été amenés à appréhender les différents visages des pratiques du profilage racial. Le fait de devoir traiter ces plaintes nous a obligés à une réflexion rigoureuse, tant sur le concept même du profilage racial que sur les moyens de le prouver, d'abord dans le cadre de nos enquêtes et ensuite, le cas échéant, devant le tribunal. Certains résultats sont au rendez-vous, et j'avais mis en parenthèse malgré une course à obstacles, et ce, pour plusieurs raisons. J'aurai l'occasion de revenir sur cet aspect un peu plus tard. En termes de résultats, depuis 2006, nous avons complété de nombreuses enquêtes en matière de profilage, en appliquant le cadre d'analyse adopté par la Commission. Nos efforts en médiation ont permis de régler plusieurs dossiers à la satisfaction de toutes les parties dans différents contextes, corps policiers, sociétés de transport, agences de sécurité et gestionnaires d'espaces publics. À l'heure actuelle, la Commission représente plusieurs personnes devant le tribunal des droits de la personne s'estimant victimes de profilage racial et pour lesquelles la Commission a conclu à l'existence d'une preuve suffisante à cet effet. Nous attendons cependant toujours le premier jugement au fond sur la question de profilage racial. Au fil des années, divers groupes d'études et spécialistes en sciences sociales ont étudié les questions de profilage de discrimination raciale. Peu importe les méthodologies retenues, tant qualitatives que quantitatives, de l'observation sur le terrain à l'examen de dossiers officiels, ces études suggèrent toute l'existence de discrimination systémique envers les minorités racisées. C'est à partir de ce constat préoccupant que la Commission a décidé d'entreprendre une consultation publique. La Commission a donc lancé en septembre 2009 une consultation publique sur le profilage racial. Cette consultation a pour objectif de définir des pistes de solutions pour contrer le profilage racial. Et là, je vais délaisser quelque peu mes feuilles. Donc, effectivement, on a décidé, dans cette consultation, de s'attaquer aux barrières de la pleine participation des communautés de la société, de démontrer à la majorité la nécessité de changements profonds d'attitude. Dans les études, justement, qui ont été présentées à la Commission, on a vu qu'il y avait un coût au niveau de la société par rapport au profilage racial. On a voulu aussi proposer des actions concrètes et permanentes de redressement de la surveillance. Il est important de mentionner le mandat de la commission. Donc, dans cette consultation, on voulait susciter une prise de conscience collective des conséquences et des véritables coûts sociaux, lutter contre les stéréotypes et la discrimination raciale et favoriser la mise en place de solutions durables. Donc, c'est dans cette perspective que nous avons entrepris la consultation publique. Donc, nous avons décidé de choisir un groupe cible, donc les jeunes de 14 à 25 ans, des communautés racisées. Pourquoi ces jeunes? Pourquoi choisir ce groupe d'âge? Parce que c'est les plus grands utilisateurs de l'espace public. J'attire votre attention sur quelques chiffres. Les minorités racisées constituent environ 9 % de la population du Québec. Toutefois, ces groupes représentent près de 16,5 % de la population de la région métropolitaine de Montréal. Et leur poids démographique est appelé à grossir avec les années, d'une part du fait de l'immigration et d'autre part du fait de la forte proportion des jeunes qui s'y trouvent. Toutes les minorités racisées ne sont pas également victimes de discrimination ou de profilage racial au sein de la société. Les plus vulnérables à cet égard sont les Noirs, les Arabes et les Latino-Américains, qui représentent respectivement 2,5% pour les Noirs, 1,2% pour les Arabes et 1,2% pour les Latino-Américains de la population québécoise. Et pour la grande région de Montréal, les Noirs représentent 4,71%, 2,76% pour les Arabes et 2,1% pour les Arabes. Les Latino-Américains, pardon. Les membres de ces trois groupes sont souvent défavorisés et subissent une discrimination systémique qui se reflète sur plusieurs plans, notamment dans leur situation socio-économique. Ainsi, parmi les personnes nées au Canada, détentrices d'un diplôme à titre indicatif, d'un diplôme secondaire, le taux de chômage est de 14,7% chez les Noirs, 14,5% chez les Latino-Américains et 19,2% chez les Arabes. Alors qu'il n'est que de 6,6% chez les personnes non racisées. Juste pour, encore à titre d'information pour préciser, chez les diplômés universitaires nés au Canada, les taux de chômage sont de 6,3% chez les Noirs, 2,9% chez les Latino-Américains et 5,6% chez les Arabes, tandis qu'ils se situent à 3,1% chez les personnes non racisées. Les groupes racisés enregistrent également une revenu annuel moyen inférieur à celui des personnes non racisées. Ainsi, les Noirs gagnent en moyenne 22 822 $ au Québec, les Arabes 23 059 $ et les Latino-Américains 21 000 $, alors que le revenu moyen des personnes non racisées est de 32 827. Ces écarts persistent même lorsque la comparaison ne porte que sur des personnes nées au Canada ou ayant le même niveau d'instruction. Ça m'amène à vous expliquer un peu les étapes qu'a menée la commission. Donc, on a eu d'abord une pré-consultation. Donc, on est parti sur la base que le profilage racial existe. On a pu faire la preuve du profilage racial. Il y a eu des études qui ont démontré ça. Ça s'est fait dans d'autres pays. Ça s'est fait ailleurs au Canada. Donc, on est parti du constat que le profilage racial existe. On a quand même rencontré des groupes, des organisations, on a lu les recherches, on a rencontré des chercheurs pour valider justement, pour voir comment ça se vivait, si l'idée de la consultation publique finalement répondait à un besoin de la population et de ces groupes racisés. Donc, après cette pré-consultation, nous avons procédé à la première étape qui était la collecte de témoignages en automne et vers l'hiver 2009. On a recueilli plus de 150 témoignages de jeunes et de moins jeunes, parce qu'on n'a pas fermé les portes. On a retenu les témoignages du groupe d'âge de 14 à 25 ans, mais on a aussi eu des témoignages de personnes dans la quarantaine, cinquantaine, soixantaine, qui se disaient victimes de profilage racial. Donc, le témoignage classique qu'une personne, un noir qui conduit une voiture de luxe, se fait intercepter par la police, d'accord, mais on a entendu ce témoignage-là aussi de la part d'une dame de 60 ans, professeur à l'université, qui s'est fait profiler aussi dans sa voiture et c'était pas une voiture de luxe. Donc, on a entendu toutes sortes de témoignages à plusieurs niveaux. Je vous parlerai des différents secteurs aussi qu'on a traités dans cette consultation. Après avoir entendu ces témoignages, nous avons procédé à une consultation publique. Donc, à partir des témoignages recueillis, nous avons publié un document de consultation où on posait un certain nombre de questions. Les témoignages nous ont fait réfléchir et on est arrivé dans les différents secteurs à un certain nombre de questions à poser au grand public. Donc, au printemps 2010, nous avons tenu des audiences publiques qui portaient en priorité sur l'identification de solutions. Donc, on voulait des pistes de solutions. Comme justement, on partait du constat que le profilage existe, on voulait axer maintenant qu'il y a du profilage racial, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les mesures à mettre en place? Quelles sont les politiques à mettre en place pour contrer et enrayer le profilage racial? Suite à ça, et on est justement en train de... Je suis en rédaction en ce moment, avec deux autres collègues, Michel Turenne, conseillère juridique, et Paul Hyde, chercheur à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Nous sommes présentement en train d'écrire un rapport, justement, avec une série de recommandations. Il est important de mentionner que, oui, nos recommandations vont viser plusieurs institutions, plusieurs groupes, mais on a décidé, et le président s'est engagé, à faire une autocritique. Donc, la commission aussi s'engage à faire sa propre autocritique. Donc, pourquoi cette consultation? On voulait parler ouvertement des problèmes du profilage racial, parler ouvertement de racisme au Québec. On voulait surtout donner une voix aux victimes de profilage racial et offrir un forum pour les solutions. C'est ce qui a constitué justement nos audiences publiques. Donc, nous avons décidé d'étudier les trois secteurs suivants, la sécurité publique, le milieu scolaire, le système de protection de la jeunesse. Comme on a pris le groupe d'âge de 14 à 25 ans, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est les plus grands utilisateurs de la place publique. Évidemment, ce qui rend compte, qu'on a vu que les jeunes, finalement, se retrouvent où? Dans le secteur, dans l'espace public, dans les milieux scolaires et le système de la protection. Donc, c'est pour ça qu'on a ciblé ces secteurs-là. Comme je l'ai mentionné plus haut, le constat que le profilage racial existe se manifeste dans plusieurs secteurs. Donc, au niveau de la sécurité publique, le profilage racial dans ce contexte se manifeste généralement dans le cadre des interventions des agents de services d'ordre, des services de sécurité privés, ciblant des jeunes des minorités racisées pour des raisons de sécurité ou de prévention du crime. En effet, à la lumière des témoignages reçus, il semble que les contacts entre les jeunes des minorités racisées et la police constituent la forme la plus fréquente de profilage racial. Le fait que la grande majorité des témoignages des victimes et des représentations de groupes communautaires concernent la police est particulièrement préoccupant, dans la mesure où les contacts avec les forces de l'ordre constituent la principale porte d'entrée dans le système judiciaire. Plus précisément, si le profilage racial vient orienter le travail des policiers à l'étape de l'interpellation et de l'arrestation, il s'ensuivra une surreprésentation des jeunes des minorités racisées à toutes les étapes subséquentes du processus de judiciarisation, de la poursuite judiciaire à l'incarcération. On a eu beaucoup, effectivement, de témoignages par rapport à la sécurité publique. Je peux vous dire, même la majorité des témoignages concernaient le secteur, justement, de la sécurité publique. On a parlé aussi, justement, je vous parlais tout à l'heure du tribunal, donc on a beaucoup de cas en ce moment devant les tribunaux. Donc, c'est ce qu'on... Les médias en parlent souvent. C'est ce qu'on entend le plus souvent. On va voir les différentes manifestations de profilage racial. Et je regarde les gens dans la salle. Je suis sûre que vous avez des exemples qui vous viennent en tête. On pense à la sécurité. Je vois des têtes qui font oui. Quand on parle à la sécurité publique, effectivement. Par contre, on s'était aussi intéressé au milieu scolaire. On a eu moins de témoignages dans le milieu scolaire, mais il y a quand même eu des éléments très préoccupants. En milieu scolaire, le profilage racial peut se manifester dans l'application ciblée des codes de vie et autres règlements scolaires par les membres du personnel et de la direction d'une école à l'égard des jeunes des groupes racisés. En effet, des témoignages alléguant l'application disproportionnée, parfois ciblée, de mesures disciplinaires à l'endroit des élèves des minorités racisées, notamment pour troubles de comportement, constitue une problématique qui mérite réflexion. La commission constate que les jeunes qui sont victimes de profilage racial dans l'application des règlements scolaires sont souvent les mêmes qui se trouvent de manière disproportionnée en situation d'échec, de décrochage ou dans des parcours scolaires moins prestigieux. Lorsqu'elle entraîne une interruption prolongée de la scolarisation, ces mesures disciplinaires risquent d'entamer sérieusement la motivation et la persévérance scolaire de l'élève ciblé. Cette forme de discrimination institutionnalisée ou systémique qui entrave leur réussite scolaire et leur avenir socio-professionnel. C'est pourquoi les questions de persévérance, de réussite et de parcours scolaire distincts ne pouvaient être laissées de côté dans le cadre de cette consultation. Selon plusieurs personnes rencontrées, le modèle québécois des classes d'accueil ainsi que les passerelles existantes dans les différents parcours scolaires entre ces dernières, les classes régulières, doivent être aussi interrogés au regard de leur impact sur le parcours et la réussite scolaire des élèves. Justement, il y a eu des études récentes du MELS qui parlaient justement de surreprésentation des élèves issus de certains groupes racisés parmi les élèves en difficulté ou décrocheurs. Donc, ça nous a vraiment interpellés. Il y a beaucoup de gens dans des milieux scolaires, des intervenants, qui sont frileux à parler de profilage racial en milieu scolaire. Effectivement, on a précisé qu'on va regarder tout à l'heure la définition de profilage racial. Donc, quand on prend la définition de profilage racial telle que définie par la Commission, on peut parler de profilage racial dans le milieu scolaire concernant les codes de vie ou les mesures disciplinaires. Par contre, on parle plus de discrimination systémique lorsqu'on parle, par exemple, des différents parcours scolaires ou quand on fait référence aux réussites des élèves. Au niveau du système de la protection de la jeunesse, dans le cadre de l'application de la loi sur la protection de la jeunesse, on analyse la possibilité que les jeunes issus des groupes racisés puissent être victimes de profilage racial ou de discrimination, tant à l'étape du signalement au directeur de la protection de la jeunesse que lors des décisions subséquentes qui sont prises à leur endroit. Donc, on parle ensuite de l'évaluation et de la prise en charge. La Commission a voulu inciter les participants à trouver des pistes de solutions aux problèmes de surreprésentation de certains groupes racisés au sein du système de protection en accordant une attention particulière à la question des préjugés et à la formation des intervenants. Selon la Commission, ces trois secteurs doivent être analysés sous l'angle de la discrimination systémique. Par exemple, au niveau de la sécurité publique, par exemple, les politiques, les mesures concernant la lutte aux gangs de rue, la lutte aux incivilités. C'est pour ça qu'on parle plus de discrimination systémique. Par exemple, par rapport au milieu scolaire ou au système de la protection de la jeunesse, les exemples des politiques, par exemple, pour la réussite scolaire. Donc, on faut regarder, est-ce que, oui, il y a beaucoup de programmes, des bons programmes qui ont été lancés par le gouvernement par rapport à la lutte au décrochage scolaire, mais on se pose la question, est-ce que, justement, si on sait qu'il y a une surreprésentation de ces jeunes-là, est-ce qu'on a mis l'accent sur, le facteur de ces groupes racisés? Donc, oui, on donne des beaux programmes, mais est-ce qu'on a eu une attention particulière pour ces groupes racisés? Donc, c'est pour ça qu'on a voulu évaluer ça de façon systémique. J'oubliais mes diapos. Donc, la définition de la commission du profilage racial. Donc, qu'est-ce que le profilage racial? Le profilage racial désigne toute action prise par une ou des personnes en situation d'autorité. Donc, à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes, pour des raisons de sécurité, sûreté et protection du public, qui repose sur des facteurs d'appartenance réels ou présumés, tels la race, la couleur, l'origine ethnique ou nationale ou la religion, sans motif réel ou soupçon raisonnable et qui a pour effet d'exposer la personne à un traitement différent. Deuxième partie de la définition qui est essentielle, le profilage racial inclut aussi toute action encore d'une personne en autorité, qui applique une mesure de façon disproportionnée sur des segments, cette fois-ci, c'est la nuance, des segments de la population, du fait notamment à leur appartenance raciale, ethnique ou nationale ou religieuse, réelle ou présumée. Donc ça, c'est la définition de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Donc, les droits souvent en cause, puis je vais parler aussi tout à l'heure le cadre juridique qui balise le droit à l'égalité. Donc, on ne peut pas parler de profilage racial sans évoquer le droit à la vie, à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de ces personnes. Donc, comme il est mentionné dans la Charte canadienne à l'article 7, chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne. Il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. Et ceci dans la Charte québécoise à l'article 1. Tout être humain a droit à la vie ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne. Le droit au respect de sa vie privée est aussi invoqué souvent. À la Charte québécoise, l'article 5, toute personne a droit au respect de sa vie privée. Je vais vous lire aussi à l'article 8 de la Charte canadienne qui édicte « Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives » a été interprété par la jurisprudence comme comprenant le droit à la protection de la vie privée. La notion de dignité humaine. Le juge Wilson a bien expliqué ceci. La notion de dignité humaine trouve son expression dans presque tous les droits et libertés garantis par la Charte. Les individus se voient offrir le droit de choisir leur propre religion et leur propre philosophie de vie, de choisir qu'ils fréquenteront et comment ils s'exprimeront, où ils vivront et à quelle occupation ils se livreront. Ce sont tous là des exemples de la théorie fondamentale qui sous-tend la Charte. Savoir que l'État respectera les choix de chacun et, dans toute la mesure du possible, évitera de subordonner ses choix à toute conception particulière d'une vie de bien. Je tenais à préciser cet élément. Donc, le cadre juridique qui balise le droit, justement, à l'égalité. L'article 10, très important. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice en pleine égalité des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence. Et souvent, j'arrête là quand je donne des sessions de formation puis j'explique « voici la définition de la discrimination ». Donc, il y a 13 motifs pour lesquels on peut discriminer. Vous les avez ici, ce qui attire notre attention aujourd'hui, la race, la couleur, l'origine ethnique ou nationale et la religion. À l'article 10.1, on précise « nul ne doit harceler une personne en raison de l'un des motifs visés dans l'article 10 ». Donc, juste faire un petit rappel pour porter plainte, mon petit côté pédagogue, pour porter plainte à la Commission des droits de la personne, il faut justement être victime d'un de ces 13 motifs de discrimination. Donc, il faut prouver qu'il y ait justement une distinction, une exclusion par rapport à un de ces 13 motifs de discrimination et ensuite voir qu'il y a eu compromission de son droit à l'égalité. Un petit rappel. Il n'est nullement nécessaire de démontrer une intention discriminatoire pour prouver la discrimination et que les effets discriminatoires de l'acte reproché suffisent. Il y a plusieurs manifestations au profilage racial. Donc, puis je sais qu'il y a des exemples qui vont vous venir en tête. Une surveillance plus marquée, par exemple, des personnes appartenant au groupe visé dans les lieux accessibles au public. On a eu dans les témoignages, par exemple, des jeunes dans leur établissement scolaire où, parce qu'ils étaient attroupés ensemble, en groupe, en train de parler, jouer aux cartes, étaient la cible de surveillance disproportionnée envers ces groupes-là. Donc, on voit ça, on a entendu souvent des témoignages dans ce sens. Surveillance plus marquée des personnes d'appartement aux groupes visés par les organismes publics. Contrôle routier plus fréquent chez les membres de certaines communautés. On l'a entendu souvent, justement, il n'y a pas d'infraction, mais un policier décide, par exemple, d'arrêter un jeune noir, une jeune femme, ou, à cause de son appartenance à un groupe racisé. Donc, ça, on l'a entendu souvent dans nos témoignages. Application des politiques publiques de manière abusive ou plus stricte à l'égard de certaines personnes du fait de leur appartenance ou leur appartenance ethnique. On voit ça dans le système, dans le milieu de scolaire. Donc, on voit que des fois, partout où il y a de la subjectivité, il y a un risque aussi de tomber dans la discrimination raciale. Donc, on voit par exemple dans les milieux scolaires où des enseignants ou des intervenants ont utiliser des mesures disciplinaires peut-être plus de façon plus stricte pour les groupes racisés. D'autres manifestations, On a entendu souvent des témoignages justement par rapport à la suspicion plus marquée des agents en autorité envers les personnes de certaines communautés. Par exemple, on a eu des témoignages dans les centres commerciaux où systématiquement, on a eu des confidences où les agents eux-mêmes disaient que oui, effectivement, ils surveillaient par exemple, tel groupe ou tel groupe racisé. Fouilles systématiques des ressortissants de certaines origines au point d'entrée. Application plus stricte par les établissements scolaires de leur politique tolérance zéro à l'égard des enfants issus de certaines communautés. Quand on parle, entre autres, on fait référence au code de vie. Exclusion en emploi. On va le voir aussi dans les répercussions du profilage racial concernant l'exclusion en emploi. Le rôle des médias. La commission n'avait pas d'emblée choisi de traiter, de parler des médias. Par contre, les participants, lors des audiences publiques, nous ont parlé abondamment des médias, le rôle que pouvaient jouer les médias, soit pour renforcer les stéréotypes, les préjugés, le peu de représentation aussi. Quand on parle justement, souvent on entend les politiciens à la télévision parler de « eux »,« nous », en excluant les groupes. Souvent les participants disaient qu'ils ne se retrouvaient pas, par exemple, dans les séries télévisées. Donc, effectivement, beaucoup ont amené justement l'idée de l'image souvent déformée, stéréotypée des minorités ethno-raciales. Il y a des comédiens, par exemple, qui disaient que dès qu'ils avaient des rôles, par exemple des comédiens d'origine ethnique différente, qui disaient « on a toujours les mêmes rôles, il faut toujours jouer les gangs de rue, il faut toujours jouer, par exemple, des dealers, ils ont toujours des rôles vraiment stéréotypés, ils ne peuvent pas faire autre chose ». Fragmentation du discours, comme j'en parlais tout à l'heure, entre le « nous » et le « eux ». On le voit aussi dans la presse écrite. Personne issue des groupes minoritaires représentés davantage comme des assaillants. Je vais mettre les deux derniers points ensemble. Souvent, je le vois dans la presse écrite, mais aussi ailleurs, un crime individuel commis par un blanc, on attribue ça à une pathologie individuelle. Donc, c'est un problème de l'individu. Il y a un problème. Par exemple, quand un crime individuel commis par une personne d'un groupe racisé, là, on lui attache toute une empreinte culturelle. Ah, eux autres sont comme ci. Ah, oui, ils sont plus violents, c'est vrai. Donc, ça a été amené par plusieurs participants. Je trouvais ça intéressant de le mentionner. Les impacts du profilage racial. On a souvent parlé de profilage racial, mais on oublie trop souvent l'impact du profilage racial. Donc oui, il y a un impact sur la société, sur les victimes et la communauté, mais aussi sur les différentes institutions, dont le service de police. Perte de confiance, on va le voir tout à l'heure, par exemple. Donc effectivement, il y a des conséquences sociales. Criminalisation disproportionnée. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de surreprésentation. Justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous a apporté l'idée, quand on a commencé la consultation, on a rencontré les groupes, de comment notre société, on peut amener à judiciariser nos jeunes issus des groupes racisés. Par exemple, à partir d'un code de vie trop sévère pour un élève, où, par exemple, on l'expulse de l'école, ce jeune-là se retrouve dans la rue. Donc, dans la rue, plus de chances de rencontrer un policier. Donc, plus de chances de se retrouver, justement, dans un processus de judiciarisation par la suite. Donc, justement, il y a aussi la conséquence sociale, c'est une réalité faussée qu'on attribue au groupe racisé. Renforcement des stéréotypes et préjugés. J'en parlais avec les médias aussi qui n'aident pas la situation. Mais aussi dans les stéréotypes ou les préjugés qu'ont les différents intervenants dans les différents secteurs. Outils inefficaces de lutte contre le crime, parce que justement, ça a été fait, la commission ontarienne justement a démontré ça, que finalement, en faisant du profilage racial au lieu du profilage criminel, que c'était pas du tout payant et ça ne profitait à personne. Puis finalement, c'est pas justement ceux qu'on veut attraper qu'on attrape. Donc, voilà. Conséquences chez les individus, souvent oubliés dans toute cette bataille judiciaire, tant de la part des individus profilés que leur groupe d'appartenance, faut-il préciser. Donc, un sentiment d'exclusion, c'est sûr, avec un discours entre le « nous » et le « eux », il n'y a pas de sentiment d'appartenance. Méfiance envers les institutions. On a souvent entendu cette méfiance envers, par exemple, le service de police, Mais je dois vous avouer, et je le dis parce que mon président l'a dit plusieurs fois, il y a eu une méfiance aussi par rapport à la Commission des droits de la personne. Parce qu'au départ, c'était pas évident d'aller chercher des témoignages. Pourquoi on devrait se confier à la Commission des droits de la personne? Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent pour nous? Donc, il y avait une méfiance des gens. Donc, il a fallu gagner cette confiance-là, puis justement, d'en parler, pardon, avec... J'ai rien défait, tout. Un dos, c'est bon. Sentiment de révolte qui peut amener jusqu'à la violence et à la déviance. On l'a vu dernièrement avec les différents événements. Modification du comportement et des habitudes. Là, j'ai une petite anecdote d'une dame qui m'a vraiment sensibilisée. La dame expliquait que, justement, elle a dû modifier son comportement dans le sens qu'elle n'éduque pas son enfant comme elle l'aurait fait spontanément. Maintenant, elle doit dire à son enfant, « Tu ne peux pas t'habiller de telle manière parce que sinon tu vas te faire achaler par la police. » Tu peux pas, par exemple, une dame qui disait non, j'ai peur parce que mon fils a acheté une BMW, puis bon, ça y est, c'est sûr qu'il va se faire arrêter par la police. Il y a des gens aussi, par exemple, qui disaient non, le soir, j'évite telle discothèque, tel endroit, parce que j'ai justement pas envie d'avoir à me justifier auprès de la police ou d'avoir une interpellation non justifiée. Donc, effectivement, il y a une modification du comportement et des habitudes. Sentiment de résignation et de défaitisme. Répercussions sur la santé psychologique et physique. Tensions familiales et communautaires, justement, ça va souvent avec la modification du comportement et des habitudes. Solidarité ou désolidarité communautaire. On ne veut plus se faire identifier. On a vu ça chez les participants qu'ils ne veulent pas se faire identifier à leur groupe, à leur communauté. Avant de passer aux pistes d'action, par exemple, il y a la police aussi qui est en train de voir ces nouvelles stratégies, revoir, parce que on entend souvent dire qu'il y a une méfiance par rapport à la police, méfiance par rapport au système de la protection de la jeunesse, une méfiance par rapport aux différentes institutions de l'État. Donc, on voit les dommages que peut avoir le profilage racial. Oui, les pistes de solution, c'était l'objectif de cette consultation. On a entendu pendant les audiences publiques beaucoup de pistes de solutions intéressantes. Donc, oui, il y a une problématique, mais il y a aussi beaucoup de solutions dans différents milieux. Ça reste que c'est des initiatives à droite, à gauche. Donc, le but de la commission, c'est d'arriver à prendre toutes ces pistes de solutions et à faire des recommandations. Qui nous adresse aussi, parce qu'on a des recommandations pour la commission aussi, je tiens à le préciser, mais aussi envers les différentes institutions. Donc, juste pour vous donner une idée, parce que le rapport n'est pas terminé, mais pour vous donner une idée de ce qu'on a entendu comme pistes de solutions. Les pistes de solutions tournaient autour de la sensibilisation et la formation de tous les acteurs du système judiciaire et du système du milieu de l'éducation et de la protection de la jeunesse. Est-ce que les personnes en situation d'autorité chargées d'appliquer les lois et les règlements? Donc, oui, on va parler, vous allez nous entendre parler de la formation, c'est revenu souvent à tous les niveaux, formation des gestionnaires, formation des intervenants, pour sensibiliser les gens à une approche antiraciste et interculturelle. Sensibilisation des médias, j'en ai parlé, je pense qu'une sensibilisation, quand j'ai parlé des médias tout à l'heure, je pense que j'ai nommé ça. Éducation du public à tous les niveaux, c'était un des mandats de la commission, de sensibiliser la majorité, parce que souvent la majorité, on s'est promené dans les différentes régions, on n'est pas resté juste à Montréal, on s'est promené dans les différentes régions, on a été à Québec, à Trois-Rivières, à Sherbrooke, on parle aussi de profilage racial, en tout cas on a eu des témoignages de profilage racial, est-ce qu'on en parle dans les institutions, c'est une autre histoire, mais on veut justement sensibiliser, parce qu'il y a aussi des participants qui nous ont dit, on ne pensait pas que ça arrivait, on entendait parler de profilage racial, mais on se disait que chez nous, non, il n'y en avait pas, c'est de l'exagération, mais voyons donc, ça ne se fait pas. Donc, on a vu qu'on avait à sensibiliser la majorité qui n'ont pas, justement, eux, quand la majorité, c'est facile, la majorité, quand ils regardent les émissions de télévision, ils se reconnaissent, mais ils oublient que ça ne reflète pas nécessairement d'autres réalités. Assurer une diversité en emploi dans toutes les sphères de la société. Modification des politiques et pratiques institutionnelles, parce qu'on en parlait un peu tout à l'heure, justement, oui, on peut se battre, faire une lutte contre la discrimination, mais s'il n'y a pas de véritable politique institutionnelle, ça va pas très loin. Autre piste mentionnée, instauration des mesures coercitives pour contrer les pratiques discriminatoires, parce que le profilage racial, c'est illégal, la discrimination, c'est illégal, donc ça prend des mesures coercitives également. Instauration de mesures pour stimuler les actions positives, comme des initiatives qu'on a aujourd'hui. Pont entre les communautés qui se disent victimes de profilage racial et le reste de la population. Justement, j'en parlais dans la sensibilisation, je crois que ça rejoint ça, dans la sensibilisation de la majorité pour justement établir un pont entre les communautés racisées et la majorité. Engagement public de l'État et des institutions publiques, politiques et lois pour lutter contre le racisme et la discrimination, études, enquêtes, afin d'évaluer l'ampleur du phénomène, et on ne le dira jamais assez, ça prend des données, ça prend une collecte de données, on doit chiffrer justement ce phénomène de profilage racial. Alors voilà, ça va se conclure justement avec un prochain rapport. On travaille fort pour justement mettre en commun toutes ces pistes de solutions là. Donc, c'est à suivre. Vous allez probablement être au courant là, quand on va sortir le rapport là, qui est prévu au printemps 2011. Alors, voici, je serai prête à répondre à vos questions. Merci. Il y en a déjà une, je crois. Oui. Je pense, oui. C'est peut-être pour les gens. Moi, j'entendais.
J'ai juste une question par rapport au fait que vous avez mentionné que vous alliez former tous les acteurs du système judiciaire à tous les niveaux.
Oui, bah, juste faire une petite précision. On ne va pas former.
En tout cas, vous allez encourager la formation.
Oui, ça sera probablement dans une recommandation, effectivement.
D'accord. Donc, vous recommanderez par exemple à la police de former leurs policiers?
En fait, c'est des pistes de solutions qui ont été emmenées par les participants durant les audiences publiques. Donc, plusieurs participants ont emmené justement l'importance de former, oui, les agents, les policiers, mais les gestionnaires aussi. Ça a été emmené la ville, différentes institutions, le milieu scolaire, le système de la protection de la jeunesse, donc pas seulement au niveau de la police, mais effectivement, tous les gens qui ont parlé dans les différents secteurs ont mentionné l'importance de la formation et sensibilisation. Ils parlaient aussi de formation au niveau de la formation initiale, des différents intervenants, mais aussi de la formation continue.
D'accord. Merci. Oui.
Pardon? Bien sûr, Zacharia. Mon collègue de travail.
Je voulais dire aussi que la police. Je voulais dire que la police a commencé déjà aussi un travail d'autocritique et qu'à l'heure où je parle, là, il y a 90% des policiers qui ont été formés pour lutter contre le profilage racial. C'est une formation qui est organisée par la police elle-même. Oui. Et puis, ils essaient maintenant à Nicolet, là, dans les habiletés, là, dans la formation initiale, comme disait ma collègue, de former les jeunes policiers à cette sensibilité vis-à-vis des communautés culturelles.
Exactement. Sauf qu'on veut aller un peu plus loin en disant, oui, il y a de la formation qui se donne au niveau initial, mais aussi on veut qu'il y ait de la formation continue. Parce qu'arriver sur le terrain, ce qu'on se rend compte, c'est que la réalité est différente. Donc, je pense qu'il faut aller un peu plus loin que ça.
Je m'appelle Michael Udy et j'ai longuement travaillé dans un centre jeunesse. Et en 1990, il y avait eu une étude qu'on peut qualifier comme étant scientifique qui a démontré qu'il y avait une présence des jeunes noirs et familles noires parmi la clientèle de cette centre jeunesse qui variait entre deux ou trois fois plus que le poids de la, de la communauté noire d'expression anglaise sur l'île de Montréal. Et ça a déclenché toute une série de mesures qui continuent aujourd'hui à différents niveaux dans l'organisation, commençant avec le conseil d'administration, mais évidemment passant par la direction, passant par les intervenants. Je nommerai pas toutes les mesures, mais ça correspond un peu à la liste que vous avez décrite. Des suggestions que vous avez décrites créant des liens avec les communautés, cherchant du conseil et support et recommandations de la communauté noire, etc. Et après, bon, ça fait déjà maintenant 20 ans. Et même si l'étude scientifique n'a été jamais répétée, je pense que tout le monde peut dire, à partir de leurs propres observations, que cette réalité n'a pas beaucoup modifié au cours des années. Il y a toujours une surreprésentation des familles noires, des jeunes noirs, parmi la clientèle de cette organisation-là. Bon, est-ce que c'est dû au profiling, discrimination? Bon, je pense on peut jamais dire non à ça de façon définitive, à mon avis. Mais au cours de ces 20 années, j'ai appris que, premièrement, les efforts dans une organisation pour être plus conscient de ça, de travailler contre ça, c'est un effort sans cesse, à mon avis. Deuxièmement, je pense qu'on a appris qu'il y a d'autres facteurs aussi qui expliquent pourquoi les familles de la communauté noire, les jeunes de ces familles-là, vivent beaucoup de difficultés sociales. Et donc, la question que j'aimerais poser, c'est comment, lorsque on parle de la présence de profiling dans un système de protection de la jeunesse, comment on peut parler de ça et dénoncer ça, parce qu'il faut le faire, mais sans créer la fausse croyance, à mon avis, que si on peut mettre fin à ça, on va mettre fin à la surreprésentation de ces enfants et ces familles dans la clientèle. Parce que je pense que ça, ce n'est pas vrai. Il y a d'autres facteurs aussi qui compromettent la capacité de ces familles et ces jeunes-là. Donc, je ne voulais pas voir un débat qui dise tout ce qu'on a à faire pour régler ça, c'est d'arrêter le profiling. Mm-hmm. Il y a d'autres choses à faire aussi.
Tout à fait. Et c'est pour ça que la commission, merci pour votre question, c'est pour ça que la commission a voulu, justement, pour le système de la protection de la jeunesse, voir la problématique de façon systémique. Donc, peut-être que je l'ai dit un peu rapidement, je parlais de défavorisation un peu plus tôt. Ce que je voulais expliquer, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs facteurs. Donc, c'est pour ça qu'on a vu la question différemment que juste au niveau du profilage racial. Donc, effectivement, on voit qu'il y a une surreprésentation, par exemple, au niveau de la défavorisation des groupes racisés, notamment les Noirs. Donc, il faut en tenir compte. Donc, c'est pour ça qu'on en tient compte, nous aussi. Vous avez raison de dire que ça fait plusieurs années que je pense que les différents centres de jeunesse ont mis en place différentes initiatives, mais ce qu'on réalise, c'est que c'est un peu disparate. Donc, certains centres de jeunesse ont mis en place, par exemple, des programmes, des mesures, ont créé des partenariats intéressants avec les groupes communautaires, mais on voit que c'est pas égal dans chaque centre de jeunesse. Donc, effectivement, lutter contre la discrimination sans tenir compte de l'aspect du facteur socio-économique, finalement, c'est un coup d'épée dans l'eau. Donc, je suis d'accord avec vous qu'il faut tenir compte des autres facteurs. Et c'est, dans les recommandations, vous verrez, on essaie de tenir compte. Puis, c'est justement des éléments qui ont été apportés tout au long des audiences publiques. Donc, effectivement. Pour expliquer un peu par rapport à la protection de la jeunesse, ce qu'on constate puis ce que les centres de jeunesse nous disent, c'est qu'ils parlent de surreprésentation par rapport au signalement. Donc, effectivement, il y a une sensibilisation à faire au niveau de la majorité des professionnels, parce qu'on constate que qui signale les jeunes, c'est souvent des professionnels dans les CLSC, dans les établissements scolaires. Donc, il y a une sensibilisation à faire au niveau du signalement. Par contre, ce qu'on dit au centre jeunesse, c'est aussi, attention, je pense que la plupart se dotent d'outils, justement, plus objectifs pour éviter cette surreprésentation-là, pour justement voir, OK, la population nous signale une masse, on va voir un peu avec nos outils, est-ce qu'on, finalement, il y a une compromission, oui ou non. Donc, je pense qu'ils sont en train de bâtir en ce moment des outils plus fiables, plus objectifs, justement, pour éviter les biais discriminatoires. Donc, à l'évaluation et à la prise en charge. Donc, ils sont en train de mettre en place, puis ils nous ont apporté beaucoup de pistes de solutions intéressantes qu'il va falloir voir, mais comme vous dites, envisager avec d'autres facteurs, effectivement. Est-ce que ça répond à votre question? D'autres questions? Ben alors, merci beaucoup. Merci pour vos interventions. Merci.
Bonjour, je suis Véronica Amber, le responsable du bureau de CID. Et au nom de toute l'équipe, j'aimerais vous remercier beaucoup pour votre présentation très importante et éloquente et qui nous donne aussi des pistes de réflexion et d'action. Alors, j'aimerais aussi remercier Adele Blackett pour sa présence aujourd'hui, le matin, le samedi. On apprécie beaucoup. Alors, juste un petit cadeau de McGill.
Merci.
Merci tout le monde et je remercie encore Mme Magloire et Mme Blackett. Et maintenant, on va à la pause. Donc, il y aura, there's coffee and bagels, and I believe some fruit and that sort of thing out in the hallway. And I think we'll be sort of reconvening at 11 o'clock for various panels. If you haven't checked in yet, please do so at the registration desk. There you can get the full program and all that sort of thing. And if you have any questions, just look for someone with a name tag like this, and hopefully we'll be able to answer any questions that you've got. Thank you.